Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. On a encore évidemment la face minable de notre cassette. Vous avez entendu le générique un peu essoufflé. Donc on va remettre ça à tout à l'heure. Salut. À bientôt. Enfin tout de suite. Et voilà, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canut, évidemment. Vous y êtes branchés, donc vous le savez. Et c'est l'émission de l'Union communiste libertaire de Lyon. Avec ce soir Daniel à la technique et puis aux luttes sociales et puis aussi Julien au micro dans la salle, voilà. On va vous servir un programme canon, on va dire.
On va voir ça. Promesse, on verra si on suit ou pas.
Ben, on a pris des vacances, hein, de fait. On n'était pas là faux. ces semaines-là, voilà, pour des raisons tout à fait compréhensibles, voilà. On ne va pas vous les dire, d'ailleurs.
Non. Puis on va démarrer en espérant que je n'éternue pas trop, parce que j'ai bien ramassé sur le trajet niveau allergie. Ouais. On va essayer de faire ça. Alors, pour démarrer, les camarades de la semaine dernière, on en fait un point, mais on va quand même revenir dessus par rapport à l'événement qu'on organise ce week-end. Donc, ce n'est pas un événement local, hein, c'est bien un événement national avec OTAF, les syndicalistes autogestionnaires et libertaires. Le mouvement social de 2023 pour la défense des retraites a montré à quel point le syndicalisme de lutte restait un acteur incontournable de la lutte des classes, mais aussi à quel point il était affaibli. Plusieurs questions engagent son avenir. Où en est l'axe CGT-FSU solidaire, l'impératif écologique, l'égalité femmes-hommes, le rôle des minorités sexuelles ou racisées en son sein? Les syndicalistes libertaires et autogestionnaires proposent d'en débattre publiquement. Donc c'est la deuxième édition. La première avait lieu à Montreuil en 2022 et ce coup-ci, ça se passera donc sur Lyon. Ce sera la Maison des Italiens au 82, rue du Dauphiné, Lyon 3e. Alors, avec entre autres, hein, et puis je vous donnerai le programme un peu des tables rondes, on aura une aide de domicile aux familles de l'Isère, l'ADF 38 qui sera présent. On aura Julie Ferrua qui est la porte-parole nationale de Solidaire. On aura aussi l'OST, l'organisation de Solidarité Trans. On aura Sophie Bérou, sociologue, les comités syndicalistes révolutionnaires, les CSR, l'élan syndical 69, Action Justice Climat et de nombreux et nombreux syndicalistes de diverses organisations et secteurs. Voilà, l'invitation a été donnée à tous les syndicats, en tout cas de lutte, pour que leur syndiqué puisse venir. Et puis on aura sûrement des représentants des différentes unions départementales aussi. Donc ça se passera donc samedi 25 mai pour démarrer et l'ouverture des portes se fait à 13h30. À 13h45, une prise de parole inaugurale et ensuite on attaque les tables rondes avec à 14h une première table ronde d'une heure et demie sur la syndicalisation des secteurs féminisés. De 15h30 à 16h30, une deuxième table ronde, quel syndicalisme pour les luttes trans? On fera une petite pause, et sûrement pour rattraper les légers retards qu'il y aura peut-être forcément. Et enfin, de 17h à 18h30, la table ronde numéro 3, la construction et unification du syndicalisme de lutte. Donc voilà pour ce qui est de la journée du samedi. Puis en fin de journée, on se retrouve pour un petit apéro à la maison, enfin sur le même lieu, histoire de se détendre aussi un petit peu après ces trois premières tables rondes. Et on se retrouvera du coup le dimanche 26 mai. On aura un petit temps interne pour nous le matin, une pause repas et on repartira à 13h pour une table ronde d'une heure sur les pratiques syndicales pour la sociabilité ouvrière et de 14 à 15h une cinquième et dernière table ronde avec l'outil syndical pour un écologisme de classe. Donc voilà pour le programme. On vous invite à aller voir tout ça, on a mis ça, ça va être sur Rebellion, sur notre site internet fédéral et un peu de partout sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à venir, ne serait-ce que pour un temps, si vous ne pouvez pas venir bien sûr sur les deux journées, sur les deux après-midi, n'hésitez pas à passer et puis à intervenir, voilà, sur tous ces sujets. J'ai plus la liste totale, voilà, des invités, mais voilà, ça va être quand même assez... assez intéressant, on a réussi à trouver du monde, voilà, directement concerné par toutes les thématiques, hein, la syndicalisation des secteurs féminisés, quel syndicalisme pour la lutte trans, idem pour l'écologie, pour l'unification du syndicalisme et pour les pratiques syndicales, pour la sociabilité ouvrière, notamment avec l'élan syndical 69. Donc voilà, donc ça ce sera pour ce week-end, on vous attend nombreux et nombreuses du coup à ce OTAF numéro 2. Il se passe d'autres choses bien évidemment durant le week-end, hein, donc vous aurez le droit de, bien évidemment, de bouger là où vous le souhaitez. Si vous êtes du côté, c'est pas tout à côté, mais Denain-Beaumont, il y a un meeting, du coup, alors on vous invite pas à aller au meeting, hein, parce que le meeting, bah, c'est celui du Rassemblement National, avec Marine Le Pen, Bardella et nos amis les Bêtes, et là-bas, il est organisé un contre-meeting féministe contre l'extrême droite, donc ce sera le même jour, le vendredi 24 mai à 18h, des militants du coup féministes de toute l'Europe, donc appel à ce contre-meeting. Il y a un car qui a priori mis à disposition par le collectif Ma Voix, Mon Choix au départ de Lyon, et il y a une adresse mail si vous êtes intéressé, arpenteuseurbaine au pluriel @gmail.com. ça c'est du côté Denain-Beaumont. Il y a aussi du coup tout un programme ce week-end à l'illégalité avec le collectif IDIR, Espoir et Solidarité. On vous rappelle que ce collectif lutte contre les violences pénitentiaires et pour l'abolition des mitards. Donc du coup, il y a tout un programme aussi. Le vendredi 24 mai à 19h, une cantine et projection d'un film surprise. Le samedi, le matin, atelier banderole, slogan, etc. L'après-midi, des prises de parole de détenus plus temps de discussion. Idem pour des prises de parole des familles. Ensuite, il y a une conférence de presse avec Nadjet et son avocat pour dévoiler l'avancée du dossier, enquête sur la mort d'Idir, on y a déjà abordé plusieurs fois, à 20h une soirée, et donc le dimanche après-midi à 14h, une manif depuis Bellecour. Je vous lis le petit pitch du collectif Idir 69, Espoir et Solidarité. Donc le dimanche 26 mai, à l'initiative de l'association IDIR Espoir et Solidarité, est organisée la Grande Marche contre les crimes pénitentiaires, sécuritaires et pour l'abolition des mitards. Ces crimes en augmentation constante depuis des années sont la lame de fond de notre système répressif. La prison et autres centres de rétention administratifs enferment et privent de liberté, souvent dans des conditions délétères. Mais en plus, ces lieux se permettent de tuer, d'assassiner ou de pousser au suicide sans jamais que les institutions ou les agents ne voient leurs responsabilités engagées. L'omerta règne. Combien de temps avant que ce système de broyage de vie ne cesse? Combien de familles endeuillées devront encore se battre avant de voir la lumière? Répondre à ces questions ne sera pas en un jour. Voilà pourquoi il nous faut nous réunir afin de faire front ensemble contre les violences pénitentiaires et sécuritaires. Pour y dire, Mohamed, Sacha, Mehdi, Babacar, Jérôme, Pierre, Ahmed et tous les autres, nous allons nous battre. Et donc la manif, dimanche après-midi, place Bellecour. Il y a aussi d'autres mobilisations, parce que forcément tous les week-ends, il y en a. Il me semble qu'il doit y avoir demain soir devant la préfecture une mobilisation en soutien au Kanak et à tout ce qui se passe. On reviendra dessus un peu plus tard dans l'émission, mais normalement un rassemblement demain soir devant la préfecture. Il y aura aussi un rassemblement, une manifestation pour la Palestine, et il y aura également un rassemblement ou une manif contre les lois transphobes, comme c'était le cas il y a quelques jours de cela. Donc voilà pour toutes les annonces de ce week-end. Il y en a sûrement encore qu'on a oublié, et on vous invite à aller notamment sur Rébellion. J'enchaîne une première petite page, comme c'est neuf.
Oh bah là oui, tu peux.
Alors attendez, je me suis mélangé les pinceaux.
Simplement de commencer, donc effectivement.
Toujours fait. Ah, et voilà. Je vais du coup vous faire un petit point sur sur les Kanaks, du coup sur la Kanaki, parce que du coup il y a des choses intéressantes, notamment j'ai un petit communiqué de l'association Survie. Donc Survie qui lutte notamment contre la colonisation et le néocolonialisme qui a encore lieu de partout. Je vous lis tout ça. Conséquence logique, pardon, du sabotage méthodique du processus de décolonisation par l'État français, l'heure est à l'affrontement en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, qui a déjà fait plusieurs morts. On en a eu à 6 ou 7 morts. Et aujourd'hui, du coup, notre cher président Macron était sur place. Son voyage s'est bien passé, parce qu'il s'est tapé les 12 heures d'avion, je crois un peu plus même. Il est urgent de dénoncer la responsabilité première de la politique coloniale française, des colons sur place, de s'opposer à la menace qui place sur les indépendantistes et la CCAT, cellule de coordination des actions sur le terrain, en particulier elle, parce qu'elle est visée, et de soutenir la lutte légitime du peuple kanak. La Nouvelle-Calédonie est toujours une colonie française, c'est d'abord une réalité matérielle et une continuité historique. Occupation militaire, politique d'installation de colons, spoliation des terres, racisme, massacres et violences diverses qui ont jalonné ces 170 années d'occupation. L'inscription du pays sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU depuis 1986 vient rappeler cette évidence. En 1988, pour rappeler un peu l'historique, les accords de Matignon puis Nouméa avaient clôturé une période d'affrontements violents et ouvert la voie à un processus de décolonisation qui prévoyait le transfert progressif des compétences que l'État français s'était arrogées pour aller vers, entre guillemets, la pleine émancipation. L'application de ces accords a été difficile et sans cesse menacée tant par les gouvernements français que par les colons sur place. Depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, la France a mené un travail de sabotage radical de ce processus, dont la loi sur le dégel du corps électoral n'est que le dernier épisode. En 2022, le choix de nommer Sonia Backès, issue des franges extrêmes des partis coloniaux locaux au gouvernement français, était un symbole fort de ce basculement. On rappelle du coup le dégel du corps électoral, c'est de donner le droit de vote aux élections locales, il me semble, pour les personnes qui sont installées depuis moins de 10 ans. Alors qu'avant, du coup, il fallait quand même plus de temps. Donc, ce qui donnera plus de voix aux colons, parce que c'est des gens qui viennent s'installer, et donc moins de voix aux Kanaks.
Effectivement.
Il y a 40 ans, le niveau de violence avait fait plus de 90 morts, en très grande majorité kanak. On retrouve aujourd'hui plusieurs ingrédients du pourrissement de l'époque, entêtement français autour de la question du statut et des modes de scrutin, mépris des kanaks et de la revendication indépendantiste, militarisation de la répression, armement à outrance des colons. Faudra-t-il en arriver à un épisode comparable au massacre de la grotte d'Ouvéa pour que l'État français fasse machine arrière? Nous dénonçons, donc c'est le collectif survie, hein, la volonté exprimée ouvertement par le gouvernement français de criminaliser la cellule de coordination des actions de terrain, qualifiée par Gérald Darmanin de groupe mafieux. Les médias français reprennent sans distance la qualification de frange la plus radicale du Front de Libération Kanak socialiste, distillée par l'État. Cela ne correspond nullement à la réalité et surtout participe à une stratégie volontaire visant à isoler une partie du mouvement indépendantiste, préparant les esprits à son élimination politique ou même physique. Dans les années 80, cette même stratégie avait été déployée par la France et avait abouti notamment à l'assassinat direct d'Eloi Machoro par le GIGN, présenté comme un élément radical dissocié artificiellement du reste des indépendantistes. Les propos des représentants de l'État criminalisant la CAT, voilà, ça permet de faire la même chose. Aujourd'hui, plusieurs membres actifs de la CAT se cachent et se savent visés tant par la répression étatique que par les milices de colons. Gabriel Attal vient d'annoncer l'assignation à résidence de personnes désignées comme membres de cette cellule dans le cadre de l'état d'urgence. Le gouvernement français serait directement responsable de toute atteinte à leur intégrité physique. Car si a priori on peut imputer à des colons d'avoir tiré sur les jeunes kanaks depuis le début de la révolte, la responsabilité première en incombe bien à l'État et à sa politique. C'est son entêtement et sa fermeture qui ont conduit à la situation actuelle. Il est donc responsable de l'éclatement du conflit et de toutes les morts qui en découlent. De nombreux témoignages indiquent d'ailleurs un bilan plus élevé chez les kanaks que les 3 morts annoncés par l'État. On en est à 6 aujourd'hui, parce que c'était au moment où le texte avait été rédigé par survie. On constate aussi concrètement un parfait alignement entre les acteurs étatiques et les milices coloniales. Les gendarmes et policiers protègent et ouvrent la voie à ces milices que les colons se targuent d'essayer de créer dans chaque quartier. Ces groupes portent ouvertement des armes, même en présence des forces de l'ordre, sans être désarmés. Le haut commissaire et le commandement local de la gendarmerie ont tenu une conférence de presse conjointe avec Sonia Backès, présidente de la province sud aujourd'hui. Cette vice-présidente de province s'affiche ouvertement sur les réseaux sociaux et sur le terrain, en tenue paramilitaire pour donner des instructions à ces groupes armés. Sur les réseaux sociaux et devant les forces de l'ordre, les miliciens s'affichent ouvertement avec les armes dont ils font usage. Philippe Blaise, vice-président de la province sud, de la droite coloniale dure, s'affiche en tenue paramilitaire aussi, au cœur des milices, à qui il lance des instructions de discrétion. L'assassinat de jeunes kanaks correspond pleinement à la définition d'exécution arbitraire au sens de l'ONU, d'après la résolution 1994/67 de la Commission des droits de l'homme, qui considère que cette définition s'applique aussi quand des actes sont commis par des groupes paramilitaires, des forces de défense civile ou d'autres forces privées coopérant avec le gouvernement ou tolérées par lui. Le haut commissaire qui représente l'État français dans le pays a eu pour première réaction de relativiser la mort d'un des jeunes Kanaks en considérant qu'il avait été tué par quelqu'un qui a certainement voulu se défendre. Par l'utilisation de termes comme délinquant, les autorités françaises cherchent à disqualifier les mobilisations des jeunes Kanaks en lutte contre la colonisation qui leur impose discrimination, racisme, paupérisation et exclusion. L'association Survie donc exprime toute sa solidarité aux proches des victimes de cette violence coloniale, aux personnes arrêtées pour leur activité politique, et Survie s'oppose à la répression coloniale actuellement à l'œuvre, milices paramilitaires, déploiement de l'armée, état d'urgence, coupure de réseaux sociaux et même, selon ce qui a pu être remonté, des coupures du réseau 4G. Survie dénonce la stratégie donc menée par la France de dissocier et isoler la CAT du reste du mouvement indépendantiste qui fait planer une menace politique, judiciaire et même physique sur ses membres, et nous réitérons notre soutien à l'ensemble de la lutte d'émancipation du peuple kanak. On peut dire qu'on se joint à eux et qu'on est sur la même ligne que cette association Survie. Voilà pour cette première petite page, on peut faire une petite pause musicale si vous souhaitez.
Ah mais je vais te donner ça, enfin nous allons écouter les Ogres de Barbac avec un air, enfin du moins un titre qui va très bien d'ailleurs avec notre week-end prochain sur le taf, le travail, le boulot, Marné, tout ça, enfin bon bref. Et puis ce que tu viens de lire évidemment à propos de la canacrie, ça s'appelle dominer, mais c'est en deux mots, do, comme le dos de tout le monde, et miné comme usé.
Et c'est parti.
Le dominé par les dominants, je finis vider les deux pieds devant. À l'intérieur du cimetière, fier aujourd'hui, c'est moi qu'on enterre. Éradiqué par ces radicants, leur ragot dégoulinant. Les deux mains, six pieds sous terre, vers aujourd'hui, c'est moi votre dessert. Danse, ouvre les yeux et chante tant que tu peux. Découragé par ces courageants, reçus sans recommande avisant, j'ai la mise en bière amère, clair aujourd'hui, c'est moi qui vous ai. Et c'est des par des sauts décidants qui m'ont décimé décidément. Ça fait mal et j'ai pris cher, vert je le suis de rage et de colère. Danse et fume un peu et chante tant que tu peux. Décomposé par ses composants, des embûches au chemin militant, récalcitrant de leur terre, faire à coup sûr de nos vies en enfer. Dépassé par la vie des passants, à fleur de peau la vie des passants, le contrôle de mes nerfs, l'air dure toute raison sur terre. Danse tant que tu veux et chante tant que tu peux. Danse, ouvre les yeux et chante tant que tu peux. Dominé par les dominants, je finis vider les deux pieds devant. À l'intérieur du cimetière, fier aujourd'hui, c'est moi qu'on enterre. Éradiqué par ces radicants, leur ragot dégoulinant. Les deux mains, six pieds sous terre, vers aujourd'hui, c'est moi votre dessert. Danse, ouvre les...
Je sais pas si on m'entend, mais enfin
si,
bon.
Si, c'est oui. Bon, c'est reparti. Oui, là, bon, la musique, elle a été coupée, on s'excuse, il y a un petit bug au niveau de la platine.
Il y avait 40 secondes encore, mais bon, voilà. Bon, je pense que le DVD, le CD n'est pas très propre, donc voilà.
Et bien du coup, nous sommes de retour pour Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et après cette pause musicale écourtée, nous allons passer à une page de lutte sociale.
En effet, donc ce mois de mai... On n'a pas dit grand-chose, donc j'ai pioché un petit peu à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas. Ça n'a pas été facile, le mois de mai, ce n'est pas un mois que les patrons aiment.
Hein, oui, c'est vrai.
Pas de problème. Hein,
ça, ils ont rien
tant mieux,
ouais.
Tant mieux, c'est comme ça. Et je dirais qu'en ce début du joli mois de mai, c'était la panique chez Stellantis. Je rappelle que Stellantis, c'est un consortium, il y a PSA, il y a Fiat, et puis d'autres aussi qui se sont joints, des constructeurs automobiles. Et les usines étaient dans la paralysie en France et ailleurs, notamment en Grande-Bretagne. Les aliens, ont débarqué avec leur IA. Alors c'était une question, je dirais non. Simplement, plus plus terre à terre, c'est un équipementier de ex-PSA d'ailleurs, devenu sous-traitant avec 280 salariés, était en grève depuis le 17 avril à Aulnay-sous-Bois dans le 93. Les travailleurs travailleuses de MA France du groupe CLM craignent une fermeture du site. C'est un carrossier en fait, qui fabrique des pièces pour l'automobile, des carrosseries, des ailes, des portes, etc. Une délocalisation à un moment, donc une fermeture du site, et une délocalisation à un moment où l'on nous la rabâche, on nous la joue la réindustrialisation de la France. Eh bien, c'est un redressement qui était prévu. C'est pas arrivé puisque c'est une liquidation pure et simple qui a emporté, je dirais, le suffrage des dirigeants. Ça s'est déroulé au tribunal de commerce le 13 mai où étaient réunis une centaine de salariés. Une délégation a été reçu quand même par le procureur pour une éventuelle suspension de la sentence, mais non, on va dire de la décision. 280 personnes suspendues à un fil bien au-dessus de France Travail. Je rappelle que c'est France Travail, c'est ex-Pôle Emploi. Alors, MA France a été créée dans l'année 2000. La CGT annonce donc un rassemblement vers Bercy. Pendant ce temps, donc à Laval, le 30 avril, les salariés d'Intelsia, qui est un centre d'appel, se mettaient aussi en lutte, en grève illimitée. Ils et elles reprochent à leur direction des erreurs récurrentes sur leur bulletin de salaire. Et ils avaient quand même pour renfort EFO, les syndicats EFO, Sud, CGT et CFDT. Et pendant cette période, à la centrale Émile Huchet, à Saint-Avold, en Moselle, Gaz L Énergie, c'est le propriétaire de cette centrale, qui a donc vu un piquet de grève à sa porte, une centaine de salariés avec la CFDT et la CGC. Alors fin avril, ça s'est passé fin avril, alors promesses, c'est des promesses qui sont dénoncées, des promesses non tenues, pour l'après-charbon. Alors l'après-charbon, ça veut dire c'est l'hydrogène, avec une production à destination de l'Allemagne, alors qui pourtant ferait un bien fou en France, selon les grévistes, et puis à une certaine époque aussi, selon M. Emmanuel Macron. À Toulouse, 10 jours de mobilisation. 10 jours de mobilisation. Ah, ça va vite, hein. Donc, à Toulouse, 10 jours de mobilisation pour les salariés d'Honnêt, encore cette société-là qui fait du mal un peu partout à ses employés, ses salariés. Donc, c'était sur le site du CHU à Purpan, après avoir obtenu donc gain de cause quand même, mais que pour une partie des revendications, c'est-à-dire les salaires et la reconnaissance de leurs droits. Cela a produit donc un accord partiel ainsi que sur les conditions de travail et c'est pas rien, on peut dire que c'est pas rien, l'annulation d'une mutation forcée qui touchait une collègue. Ils ont obtenu également une embauche à temps plein. Et puis aussi, ils ont obtenu l'arrêt de toute pression et procédure en cours, selon la CGT. Alors, la reprise du travail a été effective le 13 mai, avec une grève quand même qui avait démarré le fin avril, le 29 exactement, avec une manifestation le 7 mai, et puis aussi un CSE extraordinaire le 15 mai. Et à Sevray aussi, en Saône-et-Loire, c'était le 6 mai, chez XPO, Alors là aussi, XPO, c'est ex d'Entresangle, beaucoup plus connu probablement. On est dans le transport routier. Grève pour la revalorisation salariale, obtenir également un 13e mois. Les NAO sont dégradés au fil du temps, apparemment, au niveau national. Ça tourne pas bien. Donc une grève nationale envoyée par l'intersyndicale, une grève nationale mais aussi illimitée. Et à l'ordre du jour, il y avait le fameux PPV, là, c'était la PPV, on peut dire, là, c'est la prime de partage de valeur à 1000 euros selon la CFTC, qui dénonce aussi une direction agressive. 238 personnes à Sevray. XPO Logistique réalise quand même quelque chose comme 18 milliards, et c'est pas des euros, ce sont des dollars. C'est une société des États-Unis. À Saint-Avé, dans le Morbihan, et c'est le 13 mai, dans cette société de plats tout prêt, tout cuit, on dirait même, et c'est pas du tout cuit partout, en fait, vous allez voir, puisqu'au menu, c'était le dernier, en fait, puisque c'est une fermeture qui est en vue, et carrément en vue, en proche vue d'ailleurs, puisque c'est à la fin du mois, et cette société s'appelle La Margelle, qui licencie 18 personnes. Une grève pour exiger, a été mise en place donc pour exiger des primes de licenciement et pas de la tambouille de premier prix. Alors pour ça, des négociations, il n'y a que le nom en fait là-dedans, puisque une manif a été réalisée le 16 mai pour les 18 personnes en question sur un rond-point. Ouverte en 2004, la société La Margelle n'a pas de repreneur. Elle a été quand même rachetée une première fois en 2007 par le groupe agroalimentaire Tribala Noyal, puis ensuite en 2022 par Olga. Le temps de se faire un petit pécule, évidemment, pour ces sociétés. C'est assez récurrent aussi de ce côté-là. En Lorraine, c'est Biogroup encore. Hein, le Biogroup, c'est dans la biologie médicale, 70 laboratoires en Lorraine, 750 salariés lorrains et lorraines. Une intersyndicale lorraine aussi qui propose de poursuivre la grève, le mouvement, mais sans piquet de grève. C'était à la mi-mai, avec négociation à l'appel, en veux-tu, en voilà. Selon la CGT et FO qui procède, donc, qui assiste, qui organise les fameuses négociations annuelles obligatoires, un accord aurait été trouvé avec la direction sur la reprise des NAO, des fameuses NAO, incluant des hausses de salaire et aussi la prise en compte des jours de grève. La direction a refusé la réunion prévue, d'où le message transmis aux salariés. Le mouvement a démarré le 13 mai. Le salaire revalorisé, donc c'était dans les négociations. Et le 13e mois qui avait été supprimé aussi, de le remettre quand même à la mode, qui avait été supprimé depuis 5 ans. Alors en France, pour dire que Biogroup réunit quand même sous sa coupe 930 laboratoires en France, ça représente du monde. À Augueux ou Augeux, je ne sais pas comment on prononce exactement, Augueux-les-Bains, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, c'était le 14 mai, avec une usine de fonderie aéronautique du nom de PCC, 120 salariés en grève, des négociations aussi annuelles sans accord, ça donne une mauvaise chanson pour les salaires. Le chef d'orchestre là-dedans, c'est la CGT, une direction aussi qui cumule les couacs avec un 2,2% et un 1% en individuel. 120 euros, c'était dans les négociations du syndicat et des grévistes, pas un sou de moins pour tous et toutes, tout est sur la partition. Alors PCC, ça veut dire, parce que je vais le donner quand même, c'est Précision Casse Perte Corps France. Toulouse.
Vous m'en direz-t-on ?
Je vais apprendre l'anglais finalement, si je continue là, il n'y a pas de problème, parce que là, compliqué à dire, hein, quand même. Donc à Toulouse, maintenant, c'est plus simple. Donc au 3 mai, sur la plateforme Aldi. Aldi, c'est un épicier en gros, hein, évidemment. C'est la plateforme du Sud-Ouest, exactement, qui alimente 83 boutiques qui étaient en grève, donc à Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn. Une grève de 100 salariés sur 130, quand même, pour des conditions de travail et des salaires. Blocage des entrées, 160 camions, c'est pas rien, qui étaient quand même en attente de pouvoir livrer leurs marchandises. La CGT est là aussi, qui accuse de pratiquer, qui accuse la direction, évidemment, de pratiquer le hard discount. Oui, ce sont des magasins hard discount, hein. Donc le hard discount, il faut se le rattraper. Donc c'est sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Le tribunal de Castres, dans le Tarn, a exigé la levée du blocage. L'intersyndicale nationale envisageait un mouvement de grève un peu plus important, c'est-à-dire au niveau national. Voilà pour cette première page.
Tout bon pour vous ?
C'est bon pour moi, là.
Eh bien, allez. J'enchaîne.
Ceux qui sont en grève. Hein.
Non, ouais. sur un petit point, sur un petit communiqué de l'UCL, sur la casse de l'assurance chômage qui continue avec des projets toujours plus grands, hein, de leur côté, de la part du gouvernement. Parce qu'il y a encore, du coup, une attaque. Et quand on attaque, eh ben, les personnes qui sont au chômage, c'est l'ensemble des salariés qu'on attaque. Donc, la ministre du Travail l'a annoncé fin avril, donc il n'y a pas si longtemps que ça, par décret. Et dès le 1er juillet, la durée d'indemnisation du chômage sera réduite à 12 petits mois, un an. Parce qu'en deux ans, du coup, cette durée a été divisée par deux. Cela nous concerne toutes et toutes. Plus de la moitié des salariés sont confrontés dans leur vie professionnelle à au moins une période de chômage. Donc en six ans, le gouvernement a démoli méthodiquement l'assurance chômage. Avant 2019, il fallait avoir travaillé au moins 4 mois sur les 28 derniers mois pour ouvrir des droits pendant au moins 4 mois. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. De même, pour recharger ses droits, il faut avoir travaillé 6 mois au lieu d'un mois avant 2019. En plus de rendre l'accès à l'indemnisation plus difficile, le montant des allocations a été réduit depuis 2021 parce que le gouvernement a modifié son mode de calcul en supprimant le principe qu'un jour travaillé ouvre droit à un jour indemnisé. Autre recul majeur depuis 2023, la durée d'indemnisation a été réduite donc de 25%, passant de 24 mois maximum à 18 mois. Et de 36 mois à 27 mois pour les plus de 55 ans, pour qui trouver du travail est plus difficile. La conséquence de cette destruction des droits au chômage est un appauvrissement et une précarisation des travailleuses et travailleurs privés d'emploi. Les allocations ont baissé de 16% en moyenne pour arriver à un montant moyen qui dépasse de peu 1000 euros. Cette baisse a concerné 1 million de personnes depuis 2019, beaucoup de jeunes, d'intérimaires et de demandeurs d'emploi soumis au contrat court. Et depuis 2019, le nombre d'ouvertures de droits a lui reculé de 30 000. Quant au nombre de personnes percevant une indemnité chômage, il a lui aussi dégringolé, pour descendre bien en deçà de la moitié des inscrits à France Travail. Cette nouvelle attaque sur les droits et à la protection contre la perte d'emploi concerne l'ensemble des travailleuses et travailleurs avec ou sans emploi. En réalité, plus de la moitié des salariés sont passés par une perte d'emploi et une inscription au chômage dans leur carrière. Alors, incriminer les chômeurs et chômeuses, c'est s'incriminer soi-même sur un marché du travail dégradé par le patronat et par l'État. D'autant qu'avec la suppression annoncée de l'ASS, le temps qui séparera l'emploi en CDI du RSA va se réduire à 12 mois. Cela pour le plus grand bénéfice du patronat qui précarise toujours plus l'emploi. Donc le patronat, lui, sera largement bénéficiaire de cette réforme. La pression à la reprise de l'emploi à n'importe quelle condition pèsera autant sur les chômeuses et chômeurs que sur les travailleuses et travailleurs en activité. Et pendant ce temps, l'État fera des économies budgétaires sur le dos des plus fragiles et continuera à subventionner les entreprises en payant à leur place des apprentis. Nous combattons l'idée que le chômage est la faute des chômeurs et des chômeuses, que l'arlésienne croissance va créer des emplois et qu'il faut travailler plus pour gagner plus. C'est pourquoi l'UCL défend une assurance chômage de haut niveau, financée par la hausse des cotisations patronales, et pour réduire le chômage, et bien une réduction du temps de travail avec embauche correspondante. Ce qui nous amène du coup à un petit texte, alors qui date un petit peu, mais qui reprend un petit peu notre vision de tout ça dans une motion qui avait été adoptée lors de notre deuxième année d'existence en 2020. Je vais vous en lire des extraits, je vous renverrai dessus après l'émission si vous souhaitez la lire en entier. Blocage des dividendes des actionnaires, reconquête d'une assurance chômage robuste, réduction du temps de travail avec embauche correspondante, réquisition, autogestion des entreprises qui ferment, droit de veto des travailleuses et des travailleurs. La lutte contre le chômage doit se faire par la redistribution des richesses. La lutte contre les licenciements doit être l'occasion, pardon, de remettre en cause l'arbitraire patronal. Donc ça faisait partie de nos orientations par rapport à la lutte contre le chômage et les licenciements. Depuis la fin des années 70, le prolétariat en France a appris à vivre sous la menace constante du chômage de masse, des plans de licenciement, des délocalisations d'usines et au prix d'une précarisation toujours accrue du travail. La plupart des licenciements et mises au chômage se font cependant à bas bruit, sans déclencher de grandes luttes collectives. Ils frappent individuellement la masse des précaires, intérimaires, CDD, auto-entrepreneurs ou bien les employés de PME peu médiatisés. Traditionnellement, ce sont les salariés des grandes entreprises soumises à des restructurations qui, en menant des luttes spectaculaires, manifestations, usines occupées, trésors de guerre mis sous clé, cadres dirigeants séquestrés, reprise de la production ponctuelle ou durable par les grévistes, peuvent mettre les licenciements sur la place publique et en faire donc une question politique. Face au plan de licenciement, la tentation existe toujours parmi les salariés de jouer profil bas en espérant que ça tombe sur les autres ou que le patronat se montre clément. Les faits démontrent que c'est toujours à moyen terme la plus mauvaise solution. Les exemples sont nombreux d'entreprises où les salariés ont accepté de renier leurs acquis sociaux en échange d'une promesse de maintien de l'activité, trahit celle-ci au bout de quelques années. Céder au chantage à l'emploi est rarement un bon choix. À l'inverse, celles et ceux qui ont refusé tout recul s'en sont généralement mieux tirés, que l'entreprise ait fermé ou non. Quelles que soient les revendications, les salariés, pour faire face aux patrons, aux décisions judiciaires et aux manœuvres de l'État, doivent créer un rapport de force, occuper l'usine, attaquer les intérêts économiques du donneur d'ordre, ça peut être par boycott, par une occupation de filiale, par le blocage de l'acheminement des produits et des machines, etc. Autant de pratiques permettant de se réapproprier l'outil de travail et de disposer de moyens de pression. Ce sont ces formes d'action directe qu'il faut promouvoir. Il est également indispensable d'organiser la solidarité à l'extérieur, en allant voir les entreprises aux alentours, en sollicitant les organisations syndicales interprofessionnelles, unions locales, etc., en allant rencontrer directement la population, les autres salariés, etc., etc. Bah, ça a été le cas, par exemple, en 2001-2003, avec la convergence des travailleuses et travailleurs de Ludanone, Mark Hines Spencer, ST Microelectronics, Daewoo, ACT Manufacturing, Thomson. Des manifestations nationales conjointes avaient été organisées et un collectif, Résistance 2004, avait produit une plateforme revendicative contre les licenciements. Ça a été le cas suite à la crise de 2008 autour de Goodyear, Continental, New Fabrice, Philips, SBFM, Molex, Friskel, etc., avec des manifs conjointes et la constitution d'un collectif contre les patrons voyous et licencieurs. Cela peut être de nouveau le cas avec la crise économique qui s'annonce et dans la foulée de la pandémie qu'on a connue également. De par leur visibilité collective, les travailleurs et travailleurs des grandes entreprises jouent donc traditionnellement un rôle moteur dans l'opposition au licenciement. Cependant, chaque contexte est particulier et chaque collectif de travail a nécessairement ses propres problématiques. Pour que la convergence soit durable, il faut des revendications communes. Et pour que cette convergence des salariés des grandes entreprises joue plus largement un rôle catalyseur dans le prolétariat, il faut des revendications à même de répondre à l'ensemble des situations de chômage. Dans tous les cas, l'UCL poussera vers des revendications alignées sur une idée directrice, le capital doit payer. Le capital n'est jamais que la somme des richesses matérielles et immatérielles produites par les salariés et appropriées par les capitalistes. Assurer la subsistance de chacune et chacun doit correspondre à une légitime redistribution des richesses en faveur du monde du travail et au détriment du capital. L'UCL donc poussera également vers des revendications mettant en cause la propriété privée et le pouvoir des capitalistes sur l'économie. Peu importe que certaines revendications soient compatibles ou non avec le capitalisme à son stade actuel, dès lors qu'elles sont légitimes d'un point de vue révolutionnaire et qu'elles rencontrent un écho. Certaines sont des revendications transitives en ce sens qu'elles soulignent l'illégitimité du régime actuel et jettent un pont vers la société de demain. Trois axes d'action et de revendication. 1. La redistribution des richesses, le capital doit payer. 2. Contestation de la propriété privée et du pouvoir patronal. Et 3. Soutien aux expériences autogestionnaires. Parce qu'à plusieurs reprises, lors d'occupation d'usines, s'est posée la question de la possession de l'outil de travail comme trésor de guerre et moyen de pression sur le patronat et les actionnaires. À ces occasions, on a vu l'amorce d'un débat sur la réappropriation de l'outil de travail. Dans les situations les plus emblématiques, l'IP en 73, l'Argentinazo en 2001, la Grèce de 2008, cela a pu déboucher sur la réquisition sauvage en autogestion. Dans d'autres cas, Isotube, Marktube en 75, Tower Curly en 95, Fralips, Copti en 2014. C'est le choix légaliste d'une reprise en coopérative qui a été opérée, parfois au terme d'un véritable bras de fer avec l'État et le patronat. Certes, il serait absurde de faire croire que cette tactique peut être valable pour toute usine menacée de fermeture ou de délocalisation. Cette option n'est adaptée qu'aux entreprises qui sont dans un circuit court ou qui peuvent bénéficier dans le secteur d'un réseau préexistant de coopératives. Il est trop facile pour le patronat de boycotter boycotter et de faire péricliter une usine sous-traitante reprise par ses salariés. Et pour tenir, la reprise par les salariés est plus facile dans les activités de niche économique où la concurrence est moins forte, ou lorsque l'entreprise produit des biens directement accessibles aux particuliers, permettant l'organisation d'une campagne de solidarité populaire réalisant la jonction production-consommation. C'est pour cette raison que, pour les entreprises dont l'utilité sociale est contestable, la question de la reconversion doit être posée. Aux travailleurs et aux travailleuses qui, pour défendre leur emploi, emploieront cette tactique de réquisition sauvage ou de reprise en coopérative, le LUCL apportera son soutien, elle encouragera l'instauration de rapports autogestionnaires et égalitaires, la reconversion éventuelle vers une production socialement utile, et agira pour resserrer les liens entre les coopératives ainsi créées et le mouvement social. L'UCL n'oppose pas lutte réformiste et lutte révolutionnaire, considérant que l'important est la conflictualité sociale en elle-même, en tant que ferment de la conscience de classe et qu'alimente indispensable à tout projet révolutionnaire. Dans les mouvements de lutte contre les licenciements, l'UCL poussera donc vers les pratiques d'action directe et les revendications unifiantes développées ici, à la fois parce qu'elles vont dans l'intérêt du prolétariat et parce qu'elles sont porteuses de remise en cause de l'ordre capitaliste et ou de l'idéologie dominante. À elles seules, ni les mesures de protection contre le chômage et d'entrave au licenciement, ni la multiplication d'îlots autogérés ne permettront la rupture avec le capitalisme. Mais s'ils reposent sur l'action directe des dominés exploités, s'ils entrent en résonance avec un imaginaire autogestionnaire et avec notre stratégie de construction de contre-pouvoir durable, ces combats nourriront un projet de transformation sociale qui peut être le communisme libertaire. Donc voilà, on reviendra sûrement aussi sur ce thème-là ce week-end à OTAF.
Donc voilà plein pour cette plein de choses ce week-end, effectivement, dans ce... au taf. Donc, musique.
Petite pause musicale. Allez, c'est parti.
On va écouter, ça ne nous concerne pas. C'est les Ogres de Barbac qui vont nous interpréter ce titre, mais ça nous est pas adressé. Ils disent « Vous m'emmerdez ».
Il vaut mieux danse prudence que sur blessure.
Pour être tout à fait honnête, comme je n'ai rien à vous prouver, je vais vous dire de cette planète ce qui ne m'a jamais dérangé. Que deux hommes se marient entre eux du moment qu'ils sont amoureux et qu'ils aiment leurs enfants, évidemment. Et pour être tout à fait franc, comme je n'ai rien à vous cacher, tout ce qui pense et autrement, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait clair et pour nous connaître mieux, je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux. Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vienne partager mon pain, si ça peut faire moins de misère, je le veux bien. Ceux qui trouveront démagogique cette façon de penser, vous avez compris la musique, vous m'emmerdez. Pour être franco de port, en y allant de but en blanc, j'ai eu beau faire tant d'efforts sur tant d'années et par tout temps. Je ne comprendrai jamais rien aux riches qui veulent toujours plus d'argent pour le cacher en fiscale niche comme c'est navrant. Je vais le dire simplement, emporter les sous-terres ses pieds et avec eux tout leur argent, vous m'emmerdez. Être tout à fait exact, vraiment précis, on ne peut mieux. Je m'en vais mesurer l'impact sur ma vie de tous vos dieux. Je ne peux faire un pas dans la rue sans tomber, ô bon Dieu, zerie, sur une croix, un fou la rue, une Vierge Marie. Comment le dire sans rancœur, loin de vos mosquées et clochers, s'il vous plaît, priez dans vos cœurs sans m'emmerder. Soit nous avons fait connaissance, il serait bon de vous dire la vérité en toute conscience qui pourrait nous anéantir. Ne me donnez jamais le pouvoir, je serai bien plus loup que vos loups. Demandez donc à ma guitare si je suis fou. Alors je reste dans mon coin, sans autre forme de procès que de vous chanter ce refrain, vous m'emmerdez. Et je n'ai nul autre besoin, vous priant de me pardonner, que de vous chanter des refrains pour vous emmerder.
Voilà.
Et vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires.
Je disais, ça ne nous est pas adressé à vous et à nous.
Non, je ne pense pas, effectivement.
Voilà.
Vous êtes toujours à l'écoute donc d'Idées Noires, l'émission des militantes et militantes de l'Union communiste libertaire. Et on va se faire une deuxième page de lutte sociale à 20h44.
C'est parti. Donc avec Furiani, c'est sur l'île de Beauté, comme on dit. Hein. Ce 16 mai, pour une grève au magasin Leroy Merlin, pour une revalorisation salariale avec le STC, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs corse. Alors, ils n'emploient pas le féminin. Hein. Je respecte leur titre. Et la CGT. Le mouvement s'est terminé le lendemain, donc le 17 mai, avec un 2,5 de mieux qui a fait la joie donc, du syndicat des travailleurs corse, mais a désolé la CGT qui n'a pas signé le protocole d'accord pour 3%. C'était la revendication de la CGT. Le STC, donc syndicat majoritaire, a été remercié par la direction pour le dialogue, pour une compréhension réciproque. Voilà, donc 80% de grévistes quand même, Leroy Merlin et la propriété, je dis ça au passage comme ça, si ça intéresse, du groupe Corin. Saint-Léonard maintenant, c'est du côté de Reims, c'est dans la Marne, c'était le 16 mai, avec 22 salariés contre un plan de sauvegarde de l'emploi, plutôt dénoncer ce plan de sauvegarde de l'emploi et proposer, qui était proposé par la direction de Steel Case. Qui fait dans le mobilier de bureau. C'est simple la vie de, au boulot. Hein. Les 18, donc favorisés entre guillemets, iront bosser à 300 km à Sarrebourg, en Moselle. Ça, c'est une proposition, évidemment, que sont obligés de faire les patrons quand ils licencient, c'est de retrouver du boulot pour leurs employés licenciés. Sympa. Alors, 4 seront donc licenciés. 18, ils ont le choix d'aller à Sarrebourg éventuellement. Il y a eu 22 croix blanches qui ont été posées devant l'établissement portant donc les noms de ceux qui sont tombés au champ du déshonneur, du n'importe quoi patronal pour satisfaire une fermeture administrative. Donc respecter la loi administrative et aussi la loi du travail. L'intersyndicale exige une prime supralégale à hauteur de 80 000 euros. La direction a proposé 10 000 euros par personne. Il faut se dépêcher à Saint-Léonard parce que la fermeture, c'est pour fin d'octobre. À Bourbourg, c'est Bourbourg-Saint-Georges-sur-la-A pour les cruciverbistes. C'est dans le Nord, avec une production de frites surgelées stoppées net chez Clarbou. Que faire ? Point d'interrogation. Eh bien, c'est pas difficile, on fait la grève au quatrième jour, ce 20 mai. C'était pour les conditions de travail estimées dangereuses. Allons donc. Et revalorisation des salaires qui constituent donc l'essentiel de la colère et l'ouverture de négociations. L'usine a démarré la production en septembre 2023 avec 400 personnes. Ça n'a pas traîné. Quelques mois après, c'était la grève. Les accidents sont légion, paraît-il. Le fonctionnement dans cette usine est de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous imaginez un peu. L'implantation avait, en 2020, fait l'objet d'une manifestation des habitants et des habitantes du secteur. Donc une protestation collective avec, pour protester contre les odeurs, évidemment, produites par la cuisson des frites. La consommation d'eau aussi importante, et puis la pollution sonore, les allées et venues des camions. C'est pas le bonheur. Clarbout, en fait, le vrai nom, la raison sociale, c'est Clarbout Potatoes. Potatoes.
Potatoes.
À Roanne, dans la Loire, le 15 mai, KNDS. Vous connaissez un peu, non ? Voilà, je vais vous l'expliquer. C'est ex-Nexter. qui auparavant s'intitulait GIAT Industries, c'est-à-dire le groupement industriel des armements terrestres, qui était donc un organisme de l'État français. On y fabrique des joujoux pour les guerriers. Mmh. Alors ça se vend très bien à l'international. C'est devenu une holding européenne avec un chiffre d'affaires à 2,7 milliards d'euros pour 2021. De plus, ça a vachement augmenté. Le 15 mai, la grève à l'appel de la CGT est reconductible. La centaine de salariés participaient donc à cette grève pour les salaires et pour aussi des négociations annuelles obligatoires. Grand bien leur fasse. Hein, s'ils peuvent faire autre chose que de construire des chars, des tanks, des armes, des balles, des grenades, des drones meurtriers et tout ça, ça serait... Voilà, enfin, on dit ça comme ça, moi je suis un peu bête. Donc l'État français, quand même, dans cette entreprise européenne, l'État français est actionnaire à 50%, et les autres 50% reviennent à la famille Bode-Wegmann. Voilà. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, mais c'est intéressant, vous allez sur Wikipédia, inutile de vous le dire que vous avez de la lecture. À Saint-Florent-sur-Cher... Ben c'est dans le Cher, c'est le 17 mai avec une entreprise, l'entreprise Gelsa, un équipementier encore de l'automobile, en difficulté. Leur principal client leur a fait un enfant dans le dos, si j'ose dire, donc c'est une vacherie, hein, vraiment une vacherie, en reprenant ses billes, c'est-à-dire l'outillage, suite à une grève du 7 mai des 28 salariés, selon la CGT, pour cause de non-versement des salaires. Il y avait eu déjà une première en mars de cette année, et aussi là, l'avenir est incertain de l'entreprise, pour l'entreprise. Alors le client en question, hein, je vais vous le dire, hein, c'est Renault, hein, qui fait encore des siennes parmi ses sous-traitants. Toulouse, encore, on y revient, c'est le 16 mai, avec Capgemini, des fois, cette fois, c'est pas une petite boîte, hein, c'est la reine du numérique, c'est la société, donc leader du numérique. La direction a mis la main à la poche pour la rémunération des dirigeants. Plus 30%. 30% de mieux. Pour le petit peuple, ben c'est nada. Enfin, pas grand-chose en tout cas. La colère, ben c'est la colère de 300 000 collaborateurs et collaboratrices dans le groupe. L'intersyndicale dénonce une forte disparité entre les résultats financiers et le traitement des salariés. On peut dire que c'est un euphémisme. Allusion aux dernières NAO. Selon les syndicats, elles ont donné un petit coup de pouce pour les tickets restaurants et la rémunération du travail de nuit. Bon, c'était une mobilisation historique aussi chez Capgemini. À Orange, maintenant dans le Vaucluse, ben le 20 mai, avec une grève dans la résidence pour personnes âgées, le Sacré-Cœur du groupe Sedna France, groupe privé, groupe qui a son actif pas mal de résidences pour les personnes âgées, la trentaine d'employés et syndicats pour dénoncer les conditions de travail, les salaires et l'effectif en sous-nombre. C'est pas tout, une gestion également toxique et des moyens pour travailler, ils exigent des moyens pour travailler correctement, une meilleure considération pour eux et elles, et elles-mêmes, et les résidents et les résidentes dont les repas sont rationnés. Alors ça balance dur au Sacré-Cœur dans l'établissement, donc si vous voulez y être hébergé en tant que résident ou de résidente, bah, il faudra casquer minimum 2670 euros par mois et par personne. Et pour finir donc cette deuxième page de lutte, c'est à Illange en Moselle le 21 mai et c'est Géport, c'est une filiale de ArcelorMittal. Il s'y passe bien des choses. Les salariés et la CGT ne sont pas d'accord sur leur activité. La manutention portuaire devrait être cédée, voire externalisée. Alors, il travaille sur les ports d'Illange et de Richemont, pour l'expédition et la réception des bobines d'acier, le stockage de minerais pour ArcelorMittal aussi. La nouvelle est tombée le 16 mai dernier, un CSE extraordinaire pour des négociations exclusives en vue d'une cession avec un autre groupe, mais seulement les dockers, si je les appelle comme ça, je ne sais pas si vraiment ils s'appellent dockers, hein, mais les dockers veulent rester dans le giron de ArcelorMittal. Mittal France à 100%, car il y a des doutes quant au sérieux du repreneur pour cette activité. Alors, il y avait ici 18 salariés sur 27 qui étaient en colère et qui menacent donc cette décision, si elle arrive à terme, par des actions coup de poing. Alors, Géport a été créé dans les années 80 et depuis janvier 2021, il y a eu une certaine association. Une union, on va dire, de 11 ports fluviaux en Moselle, ce qui a provoqué évidemment quelques heurts sociaux sur la Moselle. Voilà pour cette page.
Okay, une dernière petite page, puis on finira par les annonces qu'on a faites en début d'émission. Je vais vous lire, si vous êtes intéressé par notre journal, parce que nous avons un journal au niveau fédéral qui s'appelle toujours Alternative Libertaire, un mensuel. Vous pouvez le retrouver du côté de la Plume Noire. Vous pouvez même vous abonner si vous le souhaitez. C'est 30 euros pour un an, 20 euros pour les chômeurs, chômeuses et précaires. Et vous recevez donc votre petit numéro mensuel. Et je vais vous lire un article du coup qui a été écrit par une camarade de Grenoble sur les violences sexistes et sexuelles, le travail unitaire comme stratégie féministe. Si lutter contre les violences sexistes et sexuelles, VSS, au sein de nos organisations apparaît comme une nécessité, le faire dans un cadre inter-organisation au niveau national permet une élaboration politique plus importante encore, des retours d'expérience, mais aussi de nouveaux moyens déployés. Zoom sur un travail unitaire qui ouvre à de nombreuses perspectives. En 2021, la direction confédérale de la CGT mandate la cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles pour faire le lien avec les cellules homologues existantes dans les partis et syndicats de gauche. Se crée alors un cadre unitaire inter-organisation pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, réunissant à ce jour organisations syndicales, CGT, Solidaire, CFDT, FSU, Union étudiante, Conf paysanne et aussi des organisations politiques, pardon, et les filles ensemble, les Verts, NPA, UCL, PCF, Parti de Gauche, Génération S, la gauche éco-socialiste, et aussi des associations comme ATTAC, Amnesty International. Malgré leurs engagements antipatriarcaux, nos organisations sont loin d'être épargnées par la violence envers les femmes et minorités de genre. L'Interorga vise à améliorer ou créer nos procédures de signalement et cellules de gestion des VSS. Notre objectif est d'encourager la libération de la parole des victimes et de les accueillir au mieux grâce à des procédures solides et respectueuses. Promouvoir la formation féministe et la prévention des VSS en interne est indispensable pour toute organisation aux ambitions sociales émancipatrices. L'Interorga invite d'ailleurs des intervenantes extérieures expertes du sujet pour que les délégués puissent continuer de se former et d'enrichir leurs réflexions. Et en parallèle, il s'agit d'identifier, d'anticiper et de contrecarrer les stratégies des agresseurs pour que cesse l'impunité. Actuellement, l'Interorga travaille à l'élaboration d'un protocole commun de signalement pour lutter contre l'itinérance des agresseurs, prévu pour novembre 2024. Cette réflexion entend formaliser politiquement les intentions exprimées dans la première tribune de l'Interorga de 2021. Le déplacement des agresseurs d'une organisation vers une autre lorsqu'ils subissent des mesures d'exclusion ou de mise à l'écart est un phénomène connu. Le protocole prévoit de leur couper l'herbe sous le pied. Il permettrait du même coup de déjouer les menaces de plainte en diffamation, voire en injure publique, puisque nous n'aurions pas à communiquer leur identité en public pour informer les participantes et participantes à l'Interorga. Ce cadre permet à l'UCL de détailler le fonctionnement de sa procédure d'exclusion en cas d'agression sexuelle. Il s'agit aussi d'en diffuser la philosophie, à savoir l'importance du rapport de force féministe en interne. Nous faisons valoir que cet outil doit être la traduction pratique et immédiate de nos principes, auto-organisation des femmes, non-mixité et lutte contre les rapports de domination. Simultanément, et parce que nos outils sont toujours améliorés, l'UCL s'enrichit des réflexions et des pratiques des féministes d'autres organisations. Dans le sillage du mouvement MeToo, nous voyons régulièrement émerger des témoignages, des tribunes et des appels signés par des personnalités publiques. Certaines célébrités comme Adèle Hanel sont devenues des étendards de la libération de la parole. Si cette dynamique tout à fait positive relève un véritable tournant dans la place accordée à la parole des victimes dans l'espace public, l'Interorga contre les VSS permet une intervention sur un modèle différent. Elle reflète les aspirations féministes de la base militante sans les faire incarner par des individus. l'individu. C'est un espace prometteur pour un féminisme combatif et collectif qui renforce l'unité de notre classe. Nous voyons bien que la question des VSS est étroitement liée à la médiatisation lorsque les organisations de gauche doivent traiter des cas d'agresseurs qui sont aussi des figures publiques chargées de hautes fonctions politiques ou syndicales et bénéficiant d'un statut social privilégié, tel Adrien Quatennens ou Julien Bayou. Ces cas comportent leur lot supplémentaire de complexité pour les camarades qui les gèrent, avec une pression accrue pour remettre l'affaire à la justice institutionnelle plutôt que les organisations s'en saisissent. Parce que pour que les agresseurs, même puissants, ne soient jamais impunis, la solidarité féministe est la clé. Donc voilà, et on vous encourage vivement à venir acheter ce journal, le journal de l'UCL, ou de vous abonner, comme ça vous le recevez directement chez vous. On vous fait un tour rapide des annonces qu'on a fait en début d'émission, et notamment celles qui nous concernent, à savoir OTAF, le retour du coup d'OTAF des syndicalistes libertaires et autogestionnaires. Ça se passera au 82 rue du Dauphiné dans le 3e arrondissement de Lyon. Ce sera dès samedi 13h avec une ouverture des portes et ensuite plusieurs tables rondes avec différentes thématiques. Syndicalisation des secteurs féminisés, quel syndicalisme pour les luttes trans, la construction et unification du syndicalisme de lutte, les pratiques syndicales pour la sociabilité ouvrière, l'outil syndical pour un écologisme de classe avec plein d'intervenants. J'en ai oublié tout à l'heure, Action Justice Climat, il y aura aussi la Conf Paysanne, Sophie Bérou, les comités syndicalistes révolutionnaires, l'élan syndical 69, l'organisation de solidarité trans, Julie Ferrua, porte-parole nationale de Solidaire, etc., etc. Et donc, on vous attend nombreuses et nombreux ce week-end à la Maison des Italiens. Donc voilà, et puis pour les autres annonces, on vous laisse aller sur Rebellion, car il est déjà 21h.